Vous êtes avec les Apatrides Anonymes sur choc.ca, de retour après une petite pause d'un mois. Les Apatrides Anonymes, eh bien, c'est votre rendez-vous mensuel, bimensuel, pardon, oui, mensuel après la pause d'un mois, pour une revue fouillée des actualités nationales et internationales sur les questions qui concernent l'immigration, le racisme, l'extrême droite, les abus policiers, les enjeux autochtones et tutti quanti. Marie-Ève, au micro pour cette édition du 16 novembre, toujours en compagnie de Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir Mathieu, qui est avec moi en studio ici pour les premiers segments de l'émission. Et Simon, lui, qui est à la console pour le moment.
Allô, allô.
Alors aujourd'hui, ben moi de mon côté, je vais vous faire un topo des élections qui se sont tenues dans le monde récemment, mais aussi des résultats d'un référendum en Australie sur les droits des Autochtones. Je vais aussi vous parler d'une grève de travailleurs sans papier en France et je vais vous présenter notre calendrier militant. Plus tard, ben, Mathieu et moi, on va aussi aborder quelques enjeux migratoires d'ici. Mais Mathieu, tu vas aussi aborder le conflit israélo-palestinien, mais depuis des points de vue qui se retrouvent à peu près pas dans les médias. Hein?
Ben un peu moins des événements ou des luttes ou des analyses qui sont très, très intéressantes, mais un peu moins courues par nos généralistes médias.
Simon, toi, tu vas nous amener en France aussi et tu vas nous parler de déplacement de population dans le monde.
Oui, il y a des chiffres assez récents de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, on est toujours en explosion de migration dans le monde.
Oui, et tu vas aussi nous faire le tour des actualités autochtones d'ici.
Oui, avec le fédéral, les relations entre le fédéral et les nations autochtones.
Toujours très cordial.
Une grande amitié.
Oui. Alors, restez avec nous, hein, parce qu'on commence ça dans quelques secondes. Comme je vous le disais en intro, les populations de plusieurs pays européens se sont rendues aux urnes en octobre, que ce soit là, dans le cadre d'élections générales, pas générales, régionales ou législatives. D'abord, en Allemagne, l'extrême droite continue sa montée dans certains États. En juillet, je vous avais parlé de la victoire du parti Alternative pour l'Allemagne dans un district de l'est du pays. Il s'agissait à ce moment-là d'une première. Les observateurs prédisaient de possibles gains du parti dans trois autres États de l'Est. Des prédictions qui ne se sont pas confirmées, en tout cas en Bavière et en Est. C'est plutôt le Parti conservateur de l'Union chrétienne sociale qui a remporté la majorité des voix, plaçant l'AFD en troisième position en Bavière et en deuxième position en Est. La victoire, ben, c'est le discours anti-immigration quand même qui l'a remporté. Oui. C'est une position que partagent les deux partis. À la différence que, selon l'UCS, c'est la seule chose qui peut freiner l'avancée de l'extrême droite. Trouver l'erreur.
Mm-hmm. On verra qu'est-ce qu'ils vont décider.
C'est ça. La nouveauté, c'est la progression de l'adhésion des jeunes à l'AFD. En Est, ce sont 18 % des moins de 24 ans qui ont voté pour l'extrême droite, alors qu'en Bavière, ben, ils étaient 16 % à donner leur voix à l'AFD. Des élections législatives ont aussi eu lieu dans deux pays européens. En Suisse, c'est un parti aussi anti-immigration qui a obtenu la majorité, l'Union démocratique du centre.
Mmh, un classique.
Très proche de l'extrême droite quand même et qui accuse l'immigration d'être, et je cite, « à l'origine de la criminalité, de l'explosion des coûts sociaux ou encore de la hausse de la consommation d'électricité ». Oui, un peu plus, puis je sais pas, moi, ils les accusaient de pénurie de chocolat.
C'est des vols en mobylette électrique?
Oui. Les électeurs étaient appelés à élire les 200 députés du Conseil national qui se trouvent être la chambre basse du Parlement, où les députés sont élus au scrutin proportionnel. L'UDC a remporté donc un peu plus de 28 % des voix contre 17 % pour les socialistes qui sont arrivés en deuxième. Il faut savoir que la Suisse est, bon, pas membre de l'Union européenne, mais elle est quand même signataire des accords de Schengen et du règlement Dublin. Et si, selon un sondage paru à la mi-octobre dans le quotidien Le Temps, la situation migratoire en Suisse est perçue comme très préoccupante par 41 % de la population, majoritairement des personnes âgées. Reste que les chiffres de l'immigration du pays sont bien en dessous là, de ceux des autres pays européens. Pour illustrer ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, 24 500 demandes d'asile ont été déposées en Suisse, contre 131 250 en France et 245 000 en Allemagne. Aux législatives en Pologne, eh bien là, c'est la victoire de l'opposition centriste pro-européenne qui a été confirmée par la commission électorale. Donc, ça met fin officiellement à 8 ans de gouvernement du parti populiste nationaliste Droit et Justice de Jarosław Kaczyński, qui a remporté la Chambre basse, mais sans majorité. En nombre de députés, sur les 460 que compte la Chambre, Droit et Justice en a obtenu 194, contre 248 pour les trois partis pro-européens, alors que le parti d'extrême droite de la Confédération en a obtenu 18. L'opposition a aussi remporté une majorité confortable à la Chambre haute du Parlement en s'assurant 66 des 100 sièges de sénateurs.
Fait que c'est Tusk qui est nouveau premier ministre.
Oui,
Donald
voilà.
Tusk.
Oui. Je termine en me tournant vers l'Équateur, où le plus jeune président de l'histoire du pays a été élu. Il s'agit de l'homme d'affaires et fils de milliardaire Daniel Noboa.
Il a quel âge?
Âgé de seulement 35 ans.
Ah, c'est possible.
Marié et père de 2 enfants, Naël, Daniel Noboa a étudié dans les meilleures universités américaines avant d'intégrer l'empire familial, la Noboa Corporation. Il a grandi dans les coulisses des campagnes électorales de son père, Alvaro Noboa, qui a fait fortune dans l'exportation de bananes et qui s'est présenté sans succès 5 fois à la présidentielle, entre autres contre Rafael Correa en 2006. Noboa se dit de centre-gauche, mais bon, c'est un pur néolibéral qui incarne clairement l'élite politique équatorienne issue du monde de l'entreprise privée et proche de la droite. Son programme se déclinait en 4 volets, social, économique, institutionnel et environnemental. Il veut réduire la pauvreté, augmenter la création d'emplois par l'investissement et la création de petites et moyennes entreprises. Petites entreprises. Il propose aussi son principal cheval de bataille, en fait, c'est la criminalité et la sécurité. Il propose de militariser les ports et les frontières, de protéger les voies stratégiques d'exportation et de commerce, ou encore de développer la vigilance citoyenne. Ce qui n'est pas très rassurant.
Non.
Il veut aussi créer une agence de renseignement nationale qui chapeauterait là, tous les organes de renseignement, y compris l'administration pénitentiaire.
Ça sent la corruption.
Oui, Mathieu. C'est à toi.
C'est à moi. Ben, écoute, Palestine-Israël, il y a beaucoup de stock. J'en ai sûrement trop. J'aurais pas le temps de tout traiter, mais beaucoup de choses que je voulais nommer quand même. Premièrement, première petite section que j'ai appelée offensive des groupes et politiciens pro-israéliens et sionistes contre les critiques, toute critique du génocide en cours. En Ontario, premièrement, la récente exclusion de Sarah Jama du caucus du NPD de l'Ontario a suscité des vagues de réactions à travers la province. Madame Jama, députée de Hamilton, s'est engagée à continuer de représenter ses électeurs et de siéger en tant qu'indépendante malgré la controverse qui entoure ses commentaires en faveur des Gazaouis. La controverse a débuté le 10 octobre lorsque Madame Jama a publié un texte dans lequel elle appelait un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à la fin de toute occupation des terres palestiniennes. Cette prise de position a été relayée par le premier ministre Doug Ford, où il a accusé Madame Jama d'antisémitisme. Elle a mis en demeure le Doug Ford, mais le gouvernement conservateur a soumis une motion à Queen's Park dans le but de lui faire perdre son droit de parole en chambre. Mais finalement, le NPD l'a expulsé avant que la motion soit votée. La communauté de Hamilton a largement exprimé son soutien envers Mme Jama et ailleurs en Ontario. Donc, l'histoire n'est pas terminée. Toujours députée. Sinon, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le CIJA, dénonce la conduite inexcusable et disqualifiante de la commissaire à la lutte contre le racisme de Montréal, Boshra Manahi, et demande sa démission. Le CIJA a dénoncé d'abord le silence et l'inaction de Mme Manahi après les actes haineux et qualifiés d'antisémites qui ont été posés dans les dernières semaines à Montréal. La commissaire concède avoir participé à des manifestations en soutien à une demande de cessez-le-feu à Montréal, mais elle soutient qu'il s'agissait d'une posture individuelle qu'elle considère comme un devoir d'humanité. Madame Manahi réitère que son rôle de fonctionnaire à la Ville de Montréal n'en est pas un de représentation publique, mais qu'il consiste plutôt à travailler avec l'ensemble de l'appareil municipal pour accélérer la transformation pour une administration exemple de racisme et de discrimination systémique. Donc, c'est une haute fonctionnaire. On s'entend là-dessus. Sinon, le cinéma du Parc a annulé le 6 novembre dernier la présentation de films sur la Palestine dans le cadre d'une série de projections caritatives en soutien à Gaza, intitulée « Du fleuve à la mer » ou « Du Jourdain à la Méditerranée », si vous préférez. Le cinéma du Parc réagissait à la pression d'une pétition en frimant représenter la communauté juive de Montréal et du Canada. C'était d'être organisé dans l'établissement à l'heure prévue de la projection pour répondre aux accusations de la pétition. Celle-ci réclamait une annulation de la projection, notamment parce que cette série de films pourrait inciter à la haine contre les Juifs et parce que le nom de l'événement appelant supposément à l'élimination d'Israël serait antisémite.
C'était quoi le nom de l'événement?
Du fleuve à la mer, okay. Du Jourdain à la Méditerranée. Je vais expliquer brièvement. Un des groupes à l'origine de la série de projections Regards palestiniens qu'organisait, ainsi que des membres de Voix juive indépendante ont pris la parole concernant ces accusations. Du fleuve à la mer n'est pas un slogan pour nous, c'est en fait une référence à l'endroit dont nous venons, la Palestine. Il ne s'agit pas d'un espace imaginaire, c'est un lieu qui existait avant, qui existe toujours et existera toujours. Les prochaines soirées de projection sont maintenues et auront lieu dans les prochaines semaines à la Sala Rossa et au cinéma public. Et les films pour Regards palestiniens sont aussi disponibles en ligne. En Allemagne, une autrice palestinienne, Adania Shibli, qui devait être honorée à la Foire du livre de Francfort, ça a été annulé. Le prix a été annulé et l'hommage aussi a été annulé. Et là, dans le milieu de l'édition en Europe, je sais que ça brasse pas mal à ce niveau-là, Marie-Ève.
Pas juste en Europe, à l'international, il y a des mobilisations, il y a une espèce de comité ou un regroupement d'éditeurs canadiens, états-uniens, puis à l'international qui s'est formé là, pour faire des pressions, parce qu'il y a aussi plusieurs pressions qui sont exercées à l'encontre d'autres auteurs et autrices palestiniens.
Exactement. Puis en Allemagne, ça joue dur là-dessus. Donc, ça aussi. Sinon, je voulais parler brièvement des entreprises et de la culture de communication. Alors que le bilan de l'offensive israélienne à Gaza s'alourdit, la communication d'entreprise est en mode crise. Starbucks et McDonald's n'ont pas tardé à se retrouver au centre de la polémique. Lorsqu'Israël a commencé à lancer des frappes sur Gaza, la chaîne de restaurants McDonald's a annoncé qu'elle offrirait des milliers de repas gratuits au personnel des forces de défense israéliennes. En Israël, évidemment.
Mais ils ne sont pas tous végans.
Quant à Starbucks, il est entré dans la controverse lorsque le syndicat de ses employés a partagé un message où on pouvait lire « Solidarité avec la Palestine ». Ce message a suscité une réaction rapide de la part de plusieurs groupes juifs. Et lorsque Starbucks a décidé de poursuivre le syndicat en justice, l'entreprise a déclenché une vague de boycott pro-palestinienne. Les publications des succursales israéliennes de McDonald's et de Papa John, je ne connais pas, ont suscité la colère des peuples du Moyen-Orient en disant qu'ils appuyaient Israël. Et donc, ça a enclenché un boycott à grande échelle, ce qui a incité les succursales de ces chaînes de restaurants dans certains pays du Moyen-Orient à confirmer leur soutien à Gaza en faisant des dons pour venir en aide à l'enclave palestinienne. Des appels au boycott des grandes entreprises israéliennes et occidentales se sont intensifiés ces derniers jours. Les plus viraux concernent les classiques, hein? Carrefour, Puma, AXA, HP, Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, qui ont tous des liens avec la colonisation et avec Israël. Sinon, je vous invite à aller voir...
Il y en a une qui se profile d'Indigo.
Indigo, hein? Oui, tout à fait. Ben oui, ça.
À cause de... pas Tesla, mais... J'ai oublié le nom de la compagnie.
OK. Je fouillerai là-dessus, Marie-Ève. Sinon, je vous invite à aller sur le site de Somme Media, un média indépendant montréalais, pour voir le petit vidéo « Blocking Israel War Machine ». C'est que le 30 octobre dernier, il y a eu une manif autour et devant la manufacture d'armement Incas Armored à Toronto. Les gens ont bloqué toutes les issues. Ils ont bloqué les entrées des autos et aussi des portes à l'appel des syndicats palestiniens qui demandent de faire des actions contre les marchands d'armes qui envoient des armes en Israël. Pendant que les policiers arrêtaient 7 personnes, les cadres et certains travailleurs ont scandé des chants pro-israéliens. Donc, c'était vraiment... La vidéo vaut la peine d'aller voir ça sur Somme Media. Sinon, je pensais en parler, mais tous les médias en ont parlé aujourd'hui. Justin Trudeau qui s'est fait chahuter et entouré dans deux restaurants de Vancouver la même soirée mardi, il faut le faire, hein? Un restaurant indien et un restaurant chinois. Il a fallu qu'il y ait une centaine d'agents de la police de Vancouver qui viennent le sortir de là. C'est assez pathétique. Le pont Jean-Cartier ce matin à Montréal. Sinon, au niveau des médias généralistes, certains billets, j'ai particulièrement remarqué le titre d'un article de Radio-Canada cette semaine, « Conflit Israël-Hamas, une quinzaine de stations de métro vandalisées à Montréal ». Et là, on parle d'affiches mises dans les portes.
Oui, c'était pas des bris, là.
Non, puis des graffitis sur le trottoir, là, pour... Puis en plus, ils se sont sentis un peu mal parce qu'après, ils ont rajouté dans l'article que deux abribus avaient été vandalisés par des affiches pro-israéliennes qui affichaient les noms d'otages du Hamas avec leurs photos. Donc, voilà. Sinon, ben, Meta et la censure, certains réseaux sociaux bloqueraient disproportionnellement le contenu pro-palestinien en ligne. Des journalistes, médias, activistes partageant des informations, des images sur la situation à Gaza se plaignent de voir leur compte Facebook ou Instagram être restreint ou même supprimé par Meta depuis quelques semaines. C'est Pivot qui en a parlé. Sinon, ben, je vous invite aussi à lire un article sur Pivot toujours, qui est une de nos références, qui s'appelle « Où est votre humanité? » C'est Yara El-Souedi qui a sorti cet article-là le 19 octobre. C'est une chroniqueuse à la Gazette de Montréal qui dénonce le biais de Post Media dans tous ses journaux et ses citations en ligne sur la déshumanisation des Gazaouis qui sont considérés comme des objets ou des gens de seconde zone. Et donc cette chroniqueuse-là, c'est un article que je vous invite à lire qui est assez intéressant. Sinon, ben écoutez, si il me reste une seule minute, je peux pas ne pas parler, Marie-Ève, de Mme Braverman, en Angleterre. Effet collatéral, dommage collatéral de cette crise au Proche-Orient.
Bye-bye.
Donc, limogé de son ministère de l'Intérieur pendant que David Cameron revient aux affaires étrangères, c'est vraiment absurde.
Pour recentrer le parti, paraît-il.
Exactement. Bonne observation,
Simon.
C'est
pas trop le recentrer par rapport à quoi, là?
Fait qu'elle avait mis en cause la semaine dernière l'impartialité des forces de police. Elle reprochait d'avoir autorisé des manifs pro-palestiniennes, dont celle du jour du souvenir, samedi dernier, multipliant les polémiques et les provocations, qualifiant de marche de la haine les défilés pro-palestiniens londoniens des quatre derniers week-ends. Elle n'a pas condamné les principaux fauteurs de troubles, c'est-à-dire les militants d'extrême droite qui ont essayé de rentrer de force dans le cénotaphe le 11 novembre dernier. Pour dénoncer la situation en Angleterre. Donc, trop toxique aux yeux d'une bonne partie des députés conservateurs, elle affaiblissait l'autorité du premier ministre Sunak. Donc, Cameron à la rescousse, on se rappelle, pour ceux qui s'en rappellent pas, qui fait son retour et que c'est Monsieur Brexit en Angleterre en 2016, c'est lui qui avait autorisé le référendum, puis s'était fait dépasser par sa droite. Donc, voilà, j'avais d'autres petites choses, mais peut-être plus tard dans l'émission.
Oh, ben, il va en
ou
avoir
dans
encore
deux semaines.
Ouais, non, ça s'arrêtera pas. Là-dessus, on s'en va en musique.
Optimism, hope the feeling, listen to the old decisions. Pop the rings, the shoulder glistens. Golden misses, more than pinkies. I've been reading by the Thomas teachers. Hold the pistol straight up to Jehovah's Witness. Soldiers in with more conscriptions. Foreign people blown extensions. Pop the heroes, throw the zeros. Let us evil, drop the ego. This very little life we live, aside the rich, I'm going through an ISIS prince. Silence, little minus 10. High revenge, gonna waste life to win. And it's striking like bright in there. Do the same shit over and we back again. We'll be right back.
Alors, on écoutait le duo montréalais Electro Pelada avec la pièce La gente se levante, les gens se lèvent, sur laquelle on pouvait aussi entendre Backswatch à la fin. La pièce est tirée de leur album Ahora más que nunca, maintenant plus que jamais, paru en septembre dernier. Avant de retrouver Simon, on s'en va en France où une grève de travailleurs sans papier a eu lieu au centre du pays dans la région parisienne. C'est une grève éclair de 48 heures qui a eu lieu les 17 et 18 octobre à l'initiative de la CGT. C'était d'une ampleur sans précédent. Ça a mobilisé près de 700 travailleurs sur 33 occupations et piquets de grève simultanément. La plupart des travailleurs sont employés ponctuellement par des boîtes intérim dans des chantiers de construction, mais aussi dans des entreprises de nettoyage, de distribution de colis ou de ramassage des ordures. Leur principale revendication, c'était que leurs employeurs leur remettent les documents administratifs nécessaires à l'ouverture de procédures de régularisation auprès des préfectures. À l'issue de la grève, les travailleurs ont réussi à obtenir les formulaires dûment remplis par une trentaine d'employeurs. À ce jour, il y a une seule entreprise qui refuse toujours de délivrer les documents administratifs. Selon Nicolas Jounin, qui est sociologue qui a analysé les précédentes grèves de 2008, cette victoire-là s'explique en partie en raison de la tenue des Jeux olympiques de 2024 parce que plusieurs chantiers sont dans l'urgence. D'ailleurs, un des slogans des grévistes était « pas de papier, pas de JO ». Mm-hmm. Est-ce que cette accélération de procédure de régularisation va être suivie par les pouvoirs publics pour accorder aussi rapidement les papiers? Difficile à dire, mais s'ils ont décidé de mener ces actions, coup de poing pour leur régularisation, c'est aussi pour que, selon leurs propres mots, la peur change de camp et pour mettre fin à la surexploitation des sans-papiers. Une chose est sûre, c'est qu'au dire des travailleurs eux-mêmes, le mouvement s'arrêtera pas tant qu'ils obtiendront pas la régularisation pour tout le monde. Ils espèrent donc peser sur le débat autour du projet de loi Asile et immigration de Gérald Darmanin, qui a été adopté par le Sénat français mardi, dans une version largement plus répressive que la version initiale. Le 11 décembre, le texte va passer ensuite entre les mains des parlementaires de l'Assemblée nationale, qui, eux autres aussi, vont pouvoir le modifier. Je vous présente quand même les principales mesures du projet de loi modifié, et attention, ça bûche.
C'était déjà pas un régime le plus facile en France non plus.
Hein? Non, c'est ça. Je vais vous présenter les grandes lignes. Là. Dans un, resserrement des critères du regroupement familial en renforçant, entre autres, les conditions de séjour et de ressources d'un demandeur. Établissement du délit de séjour régulier, rétablissement du délit de séjour régulier qui avait été supprimé en 2012 par François Hollande. Cette infraction-là va sanctionner la seule présence là, sur le territoire français d'une personne en situation irrégulière. Les allocations familiales et l'aide au logement deviennent conditionnelles à 5 ans de résidence contre 6 mois actuellement. Suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Délivrance d'une obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile en première instance, sans attendre un éventuel recours. Le droit du sol est plus automatique pour les enfants nés en France de parents étrangers qui obtenaient la nationalité française à leur 18 ans. L'aide au développement est conditionnelle aux pays facilitant l'expulsion de leurs ressortissants. Allongement de 10 ans du délai à 10 ans du délai de résidence en France pour une naturalisation, contre 5 maintenant. Prolongement à 3 ans du délai de validité maximale d'une obligation de quitter le territoire, contre 2 ans actuellement. Et à 10 ans, le délai d'une interdiction de retour sur le territoire français, contre 5 actuellement. Fin de la protection quasi absolue dont bénéficiaient les étrangers arrivés avant l'âge de 13 ans en France. Les conjoints français, les étrangers en France depuis plus de 20 ans, vont être expulsables s'ils sont condamnés pour des faits punis à 5 ans de prison. Et en cas d'atteinte au principe de la République, là où il y a des activités à caractère terroriste, la carte de séjour pluriannuelle devient conditionnelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français validé lors d'un examen. Et enfin, fin de l'idée d'un droit automatique à la régularisation pour les sans-papiers travaillant dans le secteur dit en tension. C'était une mesure phare de la version initiale de la nouvelle loi.
On avait parlé, oui.
C'est ça. Les étrangers vont pouvoir obtenir un titre de séjour d'un an au cas par cas seulement, à titre exceptionnel et non de plein droit. Le travailleur va aussi devoir exercer pendant au moins 12 mois sur les 2 dernières années dans des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Il va devoir justifier d'au moins 3 ans de résidence ininterrompue en France pour se voir délivrer une carte de séjour de travailleur temporaire
ou de salarié d'un an.
Arrêtez.
C'est quelque chose.
Quasiment être citoyen pour obtenir la citoyenneté.
C'est exactement ce que je me disais.
Est-ce que le RN est au pouvoir, Marie-Ève, actuellement?
Pourtant, non. Mais bon.
Il n'y a pas besoin d'être au pouvoir.
Non.
Hein?
C'est la France.
Ouais.
Oui, mais en tout cas, tout ça pour pousser les gens dans la clandestinité. Je vous reviens avec deux petites brèves françaises, mais d'abord, j'ai des chiffres plus mondiaux.
Bien sûr.
Des chiffres récents de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui ont été publiés par communiqué le 25 octobre dernier. Selon l'agence, le nombre de personnes déplacées à cause de la guerre, des persécutions, de la violence et des violations de droits humains dans le monde a probablement dépassé les 114 millions à la fin septembre. Pour précision, ce serait à peu près la moitié des personnes déplacées qui le sont dans leur propre pays et l'autre moitié dans d'autres pays limitrophes ou plus éloignés. Donc, 114 millions, c'est un record historique. Je vais vous faire un résumé, mais je vous invite à lire le communiqué qui est disponible en français, dont le titre exact est « Le nombre de personnes déracinées à travers le monde continue d'augmenter à mesure que les conflits s'intensifient ». On peut le trouver sur unhcr.org. Je vous lis intégralement un paragraphe du communiqué. J'ouvre les guillemets. « Les principaux facteurs à l'origine des déplacements forcés au cours du premier semestre de 2023 ont été la guerre en Ukraine et les conflits au Soudan, en République démocratique du Congo et au Myanmar, une combinaison de sécheresse, d'inondations et d'insécurité en Somalie et une crise humanitaire prolongée en Afghanistan. » Donc, vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les points chauds de la planète actuellement, mais des contextes qui ont récemment provoqué des déplacements de masse. Par exemple, le Yémen, dont la crise humanitaire demeure actuellement l'une des pires avec celle en Afghanistan, elle n'est pas mentionnée parce qu'elle n'a pas généré récemment de grands mouvements migratoires. Mais elle en demeure pas moins terrible. Si on veut regarder l'évolution des chiffres, on constate qu'il y a un an, fin 2022, on estimait à 108 millions le nombre de personnes déplacées. Juin dernier, il y a 6 mois, donc on parlait d'environ 110 millions. Donc, grosse augmentation de 4 millions de réfugiés en 6 mois pour atteindre le chiffre actuel de 114 millions. La taxe sur Gaza n'est pas prise en compte dans l'estimation actuelle, mais on calcule qu'environ 1,5 million de Gazaouis et Gazaouites ont quitté leur maison pour espérer trouver refuge ailleurs à l'intérieur de la bande de Gaza, puisque impossible d'en sortir. Donc aujourd'hui, en incluant Gaza, on approcherait les 116 millions de personnes déplacées dans le monde. Quelques données en vrac, les pays à revenus faibles ou intermédiaires accueillent 75 % des réfugiés. J'ai pas la liste, par contre, je sais pas si c'est toujours la Turquie ou la Jordanie, les pays limitrophes de la Syrie qui sont toujours en tête. De janvier à juillet, 1,6 million de nouvelles demandes d'asile ont été déposées partout dans le monde, et c'est le nombre le plus élevé jamais enregistré dans une période de 6 mois. 2,7 millions de personnes déplacées internes et 404 000 réfugiés dans d'autres pays sont rentrés chez elles, soit plus du double par rapport à 2022. Par contre, on note qu'une grande partie n'est pas rentrée dans des contextes sécuritaires, et non plus on n'a pas la proportion de retours véritablement volontaires. Et on sait de toute façon que le terme volontaire, il est assez politique et souvent pas utilisé adéquatement. Le nombre de réfugiés réinstallés dans un tiers pays a aussi augmenté. Je vous avais promis des nouvelles françaises, donc j'ai deux brèves pour vous. Et les deux nouvelles ont comme point commun des juges de la Cour nationale du droit d'asile, ou la CNDA. Tout d'abord, décision en appel en faveur d'un demandeur d'asile soudanais qui avait été débouté lors de sa première demande. La décision initiale a été renversée et le système français fonctionne de telle façon que ça fait jurisprudence pour l'ensemble des dossiers similaires, donc les ressortissants du Sud-Soudan et du Darfour du Sud, qui lui est au Soudan-Soudan. Des régions très affectées par la guerre peuvent maintenant bénéficier du droit d'asile. Pour justifier cette décision, la CNDA parle de situations de violence aveugle, je ne sais pas si c'est un terme juridique officiel. Et selon Info Migrants, quiconque serait renvoyé dans la région en tant que civil court un risque réel de menace grave sur sa personne ou sur sa vie. Donc, petite note d'espoir pour tout ressortissant du Sud-Soudan ou du Darfour du Sud qui sont en attente de statut en France. Leur demande devrait se régler favorablement et assez rapidement si, évidemment, les autorités françaises ne contestent pas leurs origines.
Ah.
Parce qu'on peut bien dire, ben non, vous venez pas de cette région-là, monsieur, madame, vous n'avez pas de papier.
T'sais. Ah oui.
Comme on jouait beaucoup sur la majorité des mineurs.
Sur l'âge, oui, effectivement.
Donc maintenant, notre zéro de la semaine, un autre juge de la CNDA, lui, on a son nom, Jean-Marie Argout. Fin octobre, il a été destitué de ses fonctions en raison de prises de position islamophobes et homophobes sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours un peu fâcheux quand tu as entre tes mains la vie de personnes persécutées en raison de leur sexualité ou de leur religion. Par exemple, il partageait des publications qui déploraient l'islamisation galopante de la France et le soi-disant grand remplacement. Il faisait l'apologie de l'emprisonnement de défenseurs du mariage gay. Il était abonné à toutes sortes de pages ou de groupes d'extrême droite que je ne nommerai pas. De toute façon, la plupart, je ne les connaissais pas, donc c'est tant mieux. Un exemple plus concret, tout ça dans ses profils publics, il avait récemment partagé une publication complètement débile qui faisait le lien entre franc-maçonnerie et femmes voilées. Je suis allé voir son compte Facebook, mais probablement que son gendre lui a expliqué comment modifier ses paramètres de confidentialité, parce qu'il n'y a plus rien. Okay. Il n'y a plus rien à voir. Il y a juste son nom avec pas de photo. Mais voilà, la direction de la CNDA avait déjà décidé de sortir les poubelles, et tant mieux. On voyait avec les décisions concernant les Sud-Soudanais l'impact majeur que ça peut avoir sur la vie de milliers de personnes quand un juge rend une décision dans cette cour d'instance. On peut pas avoir un incel complotiste dans des positions aussi importantes. Alors, bye-bye, Monsieur Argou, et je parie qu'il va probablement devenir chroniqueur chez CNews avec le cousin québécois. Donc voilà les nouvelles françaises, les petites nouvelles françaises aujourd'hui.
Super, merci Simon. On va écouter quelques notes de musique et on vous revient. C'est toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. En Australie, cette fois, les résultats du référendum du 14 octobre sur les droits des Autochtones sont, faut le dire, consternants.
Décourageants.
Plus de 60 % des électeurs se sont opposés au projet Voice to Parliament, qui prévoyait de créer un conseil consultatif surnommé La Voix auprès du Parlement et du gouvernement pour émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui concernent les populations autochtones, aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui représentent près d'un million de personnes, la minorité ethnique la plus défavorisée du pays. Les défenseurs de Voice avaient espéré que le fait d'écouter des points de vue autochtones aurait pu conduire à une prestation plus efficace des services gouvernementaux et à de meilleurs résultats pour la vie des Autochtones. Les Autochtones représentent 3,8 % de la population en Australie. Leur espérance de vie est de 8 ans plus courte que celle de la population générale. Les taux de suicide sont deux fois plus élevés que la moyenne nationale et ils souffrent de maladies qui ont été éradiquées dans les pays riches. La campagne a entraîné, on en avait parlé, une avalanche de commentaires racistes sur les médias en ligne. Des fausses informations ont aussi circulé, dont certaines affirmant que les titres de propriété pourraient être mis en cause ou que des réparations devraient être versées si la réforme passait. Je rappelle que le vote était obligatoire pour les 17,5 millions d'électeurs australiens. Pour être adopté, la réforme devait recueillir à la fois une majorité de votes, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans au moins 4 des 6 États du pays. Elle n'a obtenu ni un ni l'autre. Passé la consternation et la dévastation, il y a des militants et militantes autochtones et des partisans du camp du oui qui ont publié une lettre ouverte adressée au premier ministre et aux membres du Parlement dans laquelle ils font connaître leur volonté de poursuivre l'établissement d'une voie pour les aborigènes et insulaires du détroit de Torres, mais cette fois-ci sans emprunter la voie constitutionnelle ni législative. Ce serait une genre d'entité indépendante qui agirait comme groupe de pression, un peu comme l'Assemblée des Premières Nations et le Congrès des peuples autochtones ici. Le problème, c'est que sans reconnaissance dans la Constitution, ce type de comité a toujours été retiré par des gouvernements conservateurs qui ont tous fini par abroger la législation qu'ils avaient initialement établie. Et toi, Simon, est-ce que les actualités autochtones sont plus réjouissantes?
Au Canada, c'est pas aussi, parce que c'est vraiment comme une claque d'en face en Australie.
Ouais.
Le slogan, il m'a vraiment marqué de la campagne du non, c'était « If you don't know, vote no ». T'sais, donc, informez-vous pas, là,
non,
votez
ça,
non.
Ou juste abstenez-vous pas.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y avait une pléthore de sujets, évidemment, autour des Premières Nations dans les dernières semaines. Je me suis limité. Quelques poursuites, ordonnances, règlements, on va être pas mal dans le judiciaire. Je commence avec la plus grosse nouvelle. On en a parlé dans les derniers mois. Je parle du règlement de 23,4 milliards accordés aux enfants autochtones et à leurs familles victimes du système dit de protection de l'enfance, qui a beaucoup servi au fil des décennies à retirer les enfants de leur communauté, donc de participer assez directement au génocide culturel. Ces 23,4 milliards sont prévus pour l'indemnisation des victimes, donc normalement 40 000 $ par individu, et en même temps pour la réforme du système actuel, dont un des irritants majeurs est la disparité du financement des services à l'enfance dans les réserves versus hors réserves et aussi entre les réserves elles-mêmes. Ça fait plus de 15 ans que les communautés autochtones se battaient pour faire valoir leurs droits. Globalement, on se dit satisfait du règlement qui a été conclu et il faut souligner le travail d'une femme en particulier, Mme Cindy Blackstock, qui est un peu à l'origine de toute cette bataille. Elle a déposé en 2007 une plainte au Tribunal canadien des droits de la personne pour discrimination raciale à l'endroit des enfants autochtones contre le gouvernement fédéral. Elle était présente tout au long de ces années-là dans cette bataille juridique. Donc, je disais règlement globalement satisfaisant selon ce que beaucoup de porte-parole ont exprimé. Mais on exige aussi des excuses publiques de la part du premier ministre, donc il n'y a rien de prévu à ce niveau-là pour l'instant. On demande la correction d'autres irritants qui sont interreliés, donc évidemment, par exemple, l'accès toujours inéquitable aux soins de santé dans les réserves, qui reste un enjeu majeur. L'entente ne prévoit pas du tout un plan dans les prochaines années pour corriger ça. Donc voilà pour ce règlement qui concerne les services à l'enfance. Un autre enjeu qui se dessine à l'horizon, et le fédéral semble cette fois-ci moins enclin à se battre contre les communautés autochtones, il s'agit du déficit d'infrastructures dans les communautés qui est estimé à 350 milliards, selon un rapport commandé conjointement par Service aux Autochtones Canada et l'Assemblée des Premières Nations. Service aux Autochtones Canada, c'est un des deux ministères fédéraux dédiés aux affaires autochtones. Récemment a été réitérée la promesse de combler l'écart d'ici 2030 par la voix de sa ministre Patty Adjou. On pourrait effectivement constater dans les prochaines années si l'argent est vraiment sur la table, ce qui pourrait être vérifié dans les budgets à venir et en constatant ou non les progrès en matière de logement, d'infrastructures sanitaires, éducatives, l'accès à l'eau potable. Donc, voir finalement s'il y a du concret, parce qu'au rythme actuel, si on continue dans le même ordre de grandeur d'investissement, les cibles ne seront pas du tout atteintes en 2030.
Ben non, c'est ça, le montant est tellement incroyable, tu sais, que...
Ben, il faudrait songer à l'augmenter et à budgéter déjà pour le futur, puis là-dessus, ça reste un peu flou. Donc, ça prendra un changement à 180 degrés et beaucoup plus que des promesses ou une simple reconnaissance du problème. Alors, le problème est reconnu, ça oui, mais ensuite, il faut... mettre les babines. Au niveau du financement des services de police en milieu autochtone, il y aurait aussi un important écart au point que l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec, qui sont au nombre de 22 directeurs de police, poursuit le gouvernement fédéral devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour un sous-financement qui les empêche d'offrir les services de base équivalents à ceux offerts à la population canadienne générale. Donc, on parle de sous-financement. Et en plus, le financement actuel, comme pour d'autres dossiers, il est inéquitable d'une région ou d'une province à l'autre, ce qui est souvent le cas, en fait. Il y a le protecteur du citoyen du Québec tout récemment qui nous rappelait que sur 13 recommandations formulées en 2019 pour le secteur policier en milieu autochtone, une seule a été réalisée, la production d'un rapport sur l'état de la situation. Donc, un autre rapport probablement sur une tablette. Et rassurez-vous, on n'est pas en train de...
Dont l'installation a coûté quelques milliers de dollars.
De la tablette oui. Bien, en fait, non, la tablette n'est pas encore... Donc, c'est ça, on n'est pas en train nécessairement de faire l'apologie de la police. Mais je pense que comme... Je m'en servirais un peu comme exemple, tu sais, pour montrer que partout, à tous les niveaux, il y a vraiment un écart très important entre financement des services aux Premières Nations et population générale. On se déplace maintenant dans le Midwest, où c'est la canalisation 5 ou ligne 5 de la compagnie Enbridge qui crée encore des tensions. Je rappelle qu'il s'agit d'un pipeline de pétrole brut et raffiné qui traverse le Wisconsin puis le Michigan sur plus de 1000 km pour rejoindre les raffineries de Sarnia en Ontario. Un juge du Wisconsin a ordonné en juin dernier que soit versé 5,1 millions de dollars pour une nuisance à la communauté de Bad River Bend of Lake Superior Chippewa, et que soit construit un oléoduc de contournement autour de leur territoire d'ici 2026, faute de quoi la ligne 5 devra être fermée, cesser complètement ses opérations. Enbridge porte évidemment cette décision en appel, et entre-temps, il y a des nouveaux documents déposés en cours qui nous apprenaient que le gouvernement canadien, grand allié d'Enbridge, évidemment, exploite un traité dormant pour empêcher la fermeture du pipeline, traité qui date de 1977, qui n'a jamais été utilisé avant, et qui stipule que l'aspect transfrontalier de l'infrastructure lui donne une importance stratégique particulière qui dégagerait Enbridge de ses obligations envers les États américains et les provinces canadiennes, et ce malgré que la compagnie de Calgary accumule depuis des années les violations en matière de sécurité de ses infrastructures, en matière de transparence, en matière d'à peu près tout. Et c'est un traité qui est évoqué par le Canada et non même pas par Washington. Donc, c'est l'aspect transfrontalier, Ottawa parle au nom des deux pays, c'est comme un petit peu bizarre.
Oui, c'est ça.
Il y a l'État voisin du Wisconsin, le Michigan, qui lui réclame carrément la fermeture de la ligne 5. Ouais. Le Wisconsin, pour sa part, là je parle pas de la poursuite intentée par la Bad River Band, a une position plus mitoyenne ou molle. En fait, on pose des conditions quant à la sécurité et le tracé du pipeline actuel, faute de quoi on demanderait sa fermeture. Non pas tant pour des motifs de réduction des GES, mais surtout pour les craintes liées à la contamination des sols, des aquifères et des cours d'eau qui sont traversés. Il faut savoir que la ligne 5 date de 1953. C'est un pipeline qui a 70 ans. Il est vieillissant, instable, il fuit souvent. Il a un débit, malgré tout, toujours très important. Il traverse des zones très sensibles, comme le détroit de Mackinac, qui est la jonction, rien de moins, des lacs Michigan et Huron. Donc, c'est même l'eau ici à Montréal qu'on boit. Là. Donc, voilà, c'est pas un enjeu qui est exclusivement autochtone, mais il y a quand même cette toute petite... cette toute petite communauté Ojibwe du Wisconsin qui est au-devant, qui est au front de cette lutte environnementale très importante et qui pourrait être le petit caillou dans les gros souliers d'Enbridge et d'Ottawa. Ottawa qui s'obstine, comme je le disais encore et toujours, à défendre ses minières, ses pétrolières, ses extractivistes, cette fois-ci avec un traité très douteux. Mais peut-être que les 7000 membres de la Bad River Band of Lake Superior Chippewa, j'aime ça les nommer, tu sais, parce qu'ils font quand même un travail qui est, même pour nous, là, qui est important. Ils vont probablement arriver, selon moi, à bout de ce vieux pipeline dégueulasse au nom des deux pays, et on remercie très fort. Je termine ce segment avec une suggestion de lecture, un article d'octobre dernier sur pivot.québec sous la plume de Tamara Termitus. Le titre est « Pas de réconciliation sans véritable reconnaissance » qui plaide pour un statut officiel des Premières Nations en tant que peuple fondateur du Canada, égal aux deux autres actuellement reconnus, donc anglais et français. Mm. Voilà, j'aurais pu, j'ai rejeté, je pense, à peu près 45 sujets.
Ben, c'est ça qui arrive quand on prend une pause d'un mois aussi.
Ben oui, il faudrait arrêter.
Nous serons plus assidus et... voilà. Donc, voilà. On s'en va en musique avec l'artiste multidisciplinaire Soleil lunaire.
Cette nuit naître qui t'en ira où? Scor naître qui t'en ira où? Slamina naître qui t'en ira où? Nani satin aus lauke era u set nar ne tregiton era u skor ne tregiton era u slamina ne tregiton era u nani satin not slow ke era u set nar ne tregiton era u skor ne tregiton era u La mina ne tregita era u Nani satin not slauke era u Set mar ne tregita era u
c'était l'artiste multidisciplinaire Inou, originaire de Mastoyach, Soleil Launière, et sa pièce Erahou, qui est un hommage au territoire, et c'est tiré de son premier album intitulé Taoe, qui veut dire au milieu en Inou et Moon, et qui est en 23e position du palmarès local de Choc. Avant de retrouver Mathieu pour ses analyses de quelques questions de fond en lien avec l'immigration, ben moi je vais vous parler de deux cas très concrets, ben qui illustrent en fait les effets bien concrets qu'ont nos politiques migratoires sur des personnes de chair et d'os.
Mm-hmm.
D'abord, celui d'une famille d'origine mexicaine installée à Plessisville, au centre du Québec, qui devra quitter le territoire canadien entre le 22 et le 29 décembre. Oui, oui, en pleine période des fêtes. La décision de la section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est survenue en mai dernier, mais la date de leur départ a seulement été confirmée le 31 octobre.
Mm-hmm.
Les Cuapantecle Hernandez, un couple et leurs deux enfants, affirment que leur sécurité est menacée par les cartels de la drogue s'ils retournent au Mexique. Mais selon la Cour, ils n'ont pas suffisamment démontré la menace imminente que pour leur sécurité et jugent aussi qu'ils peuvent se trouver refuge n'importe où ailleurs au Mexique, dans n'importe quelle ville. Les Cuapantecatl Hernandez affirment que leur dossier aurait été bâclé par deux avocats devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. L'un d'eux se serait pas présenté en cours à deux reprises. Il y a une campagne de soutien qui s'est mise en branle autour de la famille. Des collègues de travail et de la mère ont lancé une pétition à leur dossier, ont été envoyés au ministre fédéraux de l'immigration et celui de la sécurité publique. La famille a aussi l'appui de la ville de Plessisville. Et parallèlement à ces démarches-là, le couple a récemment déposé une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Un autre cas qui se conclut, celui-là, de façon plus heureuse, c'est celui de Philomena, une résidente de Cowansville qui était menacée d'expulsion vers son pays d'origine, le Nigeria. La campagne de soutien lancée par l'organisme Femmes des Cantons, dont elle est membre, a porté ses fruits puisque son expulsion a été suspendue quelques heures seulement avant son départ prévu le 9 novembre. Philomena est arrivée au Canada en 2018 par le chemin Roxham en tant que demandeuse d'asile. Elle craint pour sa sécurité si elle retourne dans son pays, puisque elle fait partie de la minorité chrétienne et était pasteur lorsqu'elle était au Nigeria. En septembre dernier, le ministère de l'Immigration avait rejeté sa demande d'évaluation des risques avant renvoi. Le ministère estimait que le Nigeria est un pays sécuritaire pour elle. Pourtant, sur le site même du gouvernement du Canada, on recommande d'éviter tout voyage non essentiel au Nigeria, et je cite, en raison des conditions de sécurité imprévisibles dans l'ensemble du pays et de l'important risque d'actes terroristes et criminels, d'affrontements intercommunautaires, d'attaques à main armée et d'enlèvements.
Ça va bien.
C'est d'ailleurs la mort dramatique de sa fille, assassinée en raison de son appartenance religieuse, qui l'a poussée à tenter de trouver refuge au Canada en 2018.
Fait que de Plessisville à Cowansville, Marie-Ève, on est dans la région
dans
Québec.
Dans les régions,
au Québec,
là. Hein,
ça s'en passe des choses, donc on suit ces dossiers-là. Moi, je vais te parler de chiffres, de politique, mais c'est quand même concret pour bien des gens. Les fameux seuils ont été annoncés dans les dernières semaines. Québec devrait accueillir 56 500 immigrants permanents par année en 2024 et en 2025, selon le plan qu'a déposé la ministre responsable de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, Christine Fréchette. Cette somme inclut 50 000 admissions usuelles, plutôt que les 60 000 qui avaient été mis sur la table à la rentrée, à l'automne, ainsi que 6 500 admissions dites hors cible pour les étudiants issus du programme de l'expérience québécoise. Le plan d'immigration du gouvernement devait initialement s'étaler jusqu'en 2027. Finalement, c'est seulement 2024-2025. La ministre Fréchette a expliqué avoir opté pour une planification plus courte afin de pouvoir analyser l'effet de ces mesures sur la situation du français. Le gouvernement a profité de l'occasion pour annoncer qu'il exigera dorénavant de certains résidents non permanents une connaissance minimale du français. Cet impératif sera imposé aux immigrants relevant du programme des travailleurs étrangers temporaires au moment de renouveler leur permis de travail.
Okay.
Ils devront être au niveau 4, là, qui est dans leur nomenclature. Pour des raisons de sécurité alimentaire, les travailleurs agricoles ne seront pas tenus de faire la démonstration de la maîtrise du français parce qu'ils sont considérés comme essentiels. La mesure présentée ne touchera qu'une fraction des 471 000 résidents non permanents qui se trouvaient sur le territoire québécois au 1er juillet dernier. Les titulaires de permis issus du programme des travailleurs étrangers ne représentant qu'une petite partie du total. Le gouvernement demandera aussi à Ottawa d'imposer une mesure similaire aux 119 000 immigrants temporaires admis au Québec par l'intermédiaire du programme de mobilité internationale. Donc, on est dans le français. Le démographe Marc Termotte émet pour sa part des bémols sur les intentions de la ministre. Je le cite. « Mettre le déclin du français sur le dos des immigrants, je m'excuse, ça ne marche pas. Et dire qu'il faut compter sur les immigrants pour renverser la tendance, c'est tout aussi faux. »
Ben oui.
On s'entend, c'est pas ça qui fait les grosses différences. Christine Fréchette dit qu'elle a aussi à l'œil la hausse du nombre d'immigrants temporaires, parce que le 471 000, il est pas traité dans le 50 000, là, on en avait parlé à l'émission. Pourtant, au début des consultations sur l'immigration, alors que les partis d'opposition lui reprochaient d'avoir occulté la situation des temporaires, des résidents temporaires, des résidents temporaires, exactement. Elle avait prétexté que la planification pluriannuelle porte sur l'immigration permanente et non temporaire. Mais là, finalement, elle vient de dire que c'est important, finalement, deux mois plus tard. La ministre Fréchette maintient qu'au rythme actuel, le Québec met en danger sa capacité d'accueil, mais le gouvernement Legault a admis qu'il ne détient que peu d'informations sur qu'est-ce que la capacité d'accueil et elle est comment au Québec.
Ben oui, non, c'est ça, c'est toujours ça le débat. Là.
Fait qu'il a lancé finalement un appel de proposition début octobre pour que des chercheurs se penchent sur le sujet. Ça, c'est pour Québec.
Ils produisent un rapport.
Exactement, dans quelques années. Le ministre Mark Miller a confirmé l'augmentation des cibles d'immigration à 485 000 nouveaux arrivants l'an prochain, puis l'établissement dès 2025 d'un maximum annuel d'un demi-million de résidents supplémentaires, donc ça va être 500 000 pour quelques années. C'était tout ce que j'avais à dire sur Mark Miller. L'annonce était prévisible, fait que je voulais quand même la confirmer. Mais au fédéral, il se passe d'autres choses. Les réfugiés qui font une demande pour venir au Canada doivent subir des délais interminables à cause des retards considérables dans le système d'immigration. Et la vérificatrice générale, Karen Hogan, presse le fédéral de créer immédiatement un moyen pour eux de présenter leur demande en ligne. Madame Hogan a aussi pointé des problèmes dans la charge de travail allouée à des équipes sur le terrain sans que les ressources nécessaires existent dans ces bureaux. La vérificatrice générale a constaté que le bureau de Nairobi au Kenya comptait environ la moitié du personnel, mais presque le double de la charge de travail assignée au bureau en Turquie. La charge de travail au bureau tanzanien était de 5 fois supérieure à celle du bureau italien de Rome, même si les bureaux disposaient d'un effectif semblable. Karen Hogan suggère que même si les délais de traitement se sont améliorés pour la plupart des programmes de résidence temporaire permanente en 2022, ils sont toujours très longs en ce qui concerne les programmes pour réfugiés et personnes protégées à titre humanitaire. Certains demandeurs attendaient une décision depuis près de 3 ans, en 2022, et à la fin de l'année dernière, 99 000 demandes d'asile attendaient toujours d'être traitées au ministère. On a des chiffres semblables pour d'autres programmes, évidemment. Le gouvernement avait déjà prévu rendre les démarches d'asile en ligne accessibles aux demandeurs. Il espère introduire ce mécanisme d'ici la fin du mois pour les réfugiés par année ou privé, puis le mois prochain pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement. Dernière petite nouvelle, Marie-Ève. La nouvelle approche d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, en matière de parrainage des parents et des grands-parents suscite des inquiétudes car elle laisserait pour compte beaucoup de familles, pourtant admissibles. Du 10 au 23 octobre dernier, Ottawa a invité 24 000 personnes, Canadiens ou résidents permanents, à présenter une demande de regroupement familial pour les parents et grands-parents. Sur ce nombre, IRCC va en sélectionner 15 000.
Sur combien?
Sur 24 000. Il y avait plus que 24 000 qui auraient appliqué, ils ont dit qu'il y en avait 4 000 qui peuvent appliquer, mais on va garder 15 000.
Les
critères, sont pas clairs, exactement. Non. Pour de nombreuses personnes, cela pose un problème car le ministère n'accepte plus de nouveaux formulaires d'intérêt depuis 2020. Ça, c'est déjà de l'arriérage, là.
Ah, c'est ça.
Il n'y a plus de nouvelles personnes depuis 2020 qui peuvent faire une demande. L'avocat Jatine Chory explique qu'en désespoir de cause, certains de ses clients déposent des demandes pour leur famille au titre de considération humanitaire, ce qui est selon lui risqué, stressant et beaucoup plus coûteux. Au moins 2 pétitions ont été déposées à la Chambre des communes dans les derniers mois pour remédier aux lacunes du programme de regroupement familial pour les parents et grands-parents. IRCC indique que ce dernier est en train de rattraper une liste de 200 000 parrains potentiels qui ont exprimé leur intérêt jusqu'en 2020. Il reste environ 132 000 personnes sur cette liste. Puis là, ils vont en garder 15 000 cette année. Tu vois les chiffres? En terminant, le chiffre, vraiment, selon les données les plus récentes, ça c'est en lien avec la vérificatrice générale, 802 600 demandes d'immigration sont en souffrance au Canada, dont 54 % des demandes de résidence permanente.
Ça n'a pas de bon sens, excuse-le, mais...
Oui, je sais.
C'est ridicule.
Oui, voilà, fait que ça serait toujours pas...
C'est vraiment ridicule. Ouais. Misère. Bon, OK. Bon, ben, on va taper juste des casseroles d'abord. « à mettre à votre agenda dans les prochains jours ou semaines, dans le cadre des RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, assister à la première du film Éviction. Ça porte sur un triplex de la rue Parthenay qui a accueilli pendant 10 ans toute une communauté queer, gay, lesbienne et trans. Et donc, entre party qui accueille parfois plus de 200 personnes jusqu'au petit matin, souper collectif, les grandes joies et les peines, les peines, les désespoirs, on suit ce petit groupe de personnes, cette communauté qui ont habité ce triplex. En 2022, ben c'était la fin de cet espace mythique là qui a transformé une décennie la scène queer montréalaise quand la bâtisse a été rachetée par une famille aisée pour y habiter. Gentrification oblige. Il y a donc deux projections, une le 23 novembre à 18h30 au cinéma du Quartier Latin et l'autre le 25 novembre à 13h au cinéma du Parc. Sur la même thématique, lundi prochain, le 20 novembre, a lieu une soirée à Montréal pour célébrer la vie des personnes trans. Il va y avoir des présentations sur l'histoire du mouvement trans et aussi des projections de films. C'est donc le 20 novembre à partir de 16h30. Au Grip McGill, qui est maintenant situé au 3516 Avenue du Parc, au deuxième étage. C'est entre les rues Prince Arthur et Milton.
Oui.
On reste dans l'action militante avec une manif contre Northvolt et pour des transports accessibles et durables. Le projet Northvolt, c'est cette méga usine là, de batterie à McMasterville sur la rive sud, financé à hauteur de Kitching, 7 milliards de dollars par le gouvernement du Québec. Moins d'un mois après l'annonce de ce financement-là, le gouvernement Legault avait aussi annoncé qu'il financerait que partiellement les déficits des sociétés de transport.
20%, alors, je pense.
Hein?
20%. Hein?
Quelque chose comme ça, ouais. Puis là, la STM avait comme menacé, là, avait dit, ah, ben là, on va être obligé d'arrêter le métro à 11 heures.
Oui, oui.
En tout cas, bref, l'idée de la manif, c'est donc d'offrir un accueil digne de ce nom au PDG de Northvolt, qui va être en visite à Montréal. Le rendez-vous est donc le 28 novembre à 11h devant l'hôtel Reine-Élisabeth. C'est organisé par Rage Climatique.
Mais aujourd'hui, ils ont demandé d'avoir la permission de détruire 30 milieux humides sur le site de l'usine et qu'ils voulaient avoir la réponse dans un mois. Fait que Benoît Charrette va dire oui, oui, oui.
Je termine avec une conférence qui se tient cette fois dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. C'est une conférence qui porte sur les menaces que posent les entreprises transnationales pour la souveraineté alimentaire, mais aussi sur les luttes paysannes. Comment comprendre la situation actuelle des paysans paysannes face à l'avancée de l'agriculture industrielle imposée par les entreprises transnationales au Honduras, au Guatemala, au Mexique, en Haïti et au Québec? Comment les systèmes alimentaires mondiaux sont-ils interreliés? Quelles sont les solutions possibles pour résister à la mainmise des firmes transnationales sur l'agriculture, les territoires et les êtres vivants? C'est à ces questions complexes-là que tenteront de répondre les 6 personnes qui vont composer le panel d'invités, qui sont originaires là, des pays que j'ai nommés. C'est donc le 23 novembre à 18h30 à l'Association des travailleurs grecs du Québec. C'est au 53-59 Avenue du Parc, tout près de Saint-Viateur. C'est à la fois en personne et en ligne. Et c'est ce qui clôt mon agenda.
Hé, hey, quand même, hein?
Ben oui.
Veux-tu en rajouter de Marielle?
OK.
Ben demain, vendredi, on est le 17 novembre demain.
C'est cela.
Il y a une manif qui part de l'UQAM à 14h. Tu vois, on est à l'UQAM, je me suis dit.
Bien oui.
C'est organisé par Solidarité pour les droits humains en Palestine. Ils vont rejoindre leurs collègues de McGill qui ont beaucoup de problèmes avec la direction actuellement. Fait que l'UQAM va appuyer McGill demain, donc 14h au pavillon Jasmin ici, le départ pour l'Université McGill.
À 14h demain.
Demain, vendredi 17.
Super, merci Mathieu.
Ça fait plaisir, je viens de voir ça.
C'est déjà la fin, mes amis, les apatrides anonymes.
T'as passé vite une émission, hein?
Oui.
Après un mois d'absence.
Ben oui.
C'est pour mieux revenir.
Oui.
Oui.
Effectivement. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes les ondes FM, parce qu'on n'est pas que en ligne. Ondes FM du 107.9 de Radio Victoria à l'autre bout du pays.
Oui.
Deux fois par semaine. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page
FB.
FB avec des articles non canadiens pour la plupart.
Oui, c'est ça.
Mais il y a beaucoup d'annonces d'événements, de manifs et tout sur notre page FB aussi.
Merci, vous deux, Mathieu et Simon. Hein?
Merci.
Merci.
Ben oui, merci.
C'est vraiment un réel plaisir de faire cette émission avec vous. Je m'étais ennuyé quand même.
Ben oui, merci Marie-Ève pour l'animation et toute l'information et le choix musical.
Ben oui, j'aime ça faire le choix musical.
La réalisation et tout, voilà.
Oh, la feuille de route, écoute, le café et tout.
On va se laisser en musique avec du jazz, oui, yeah, mesdames et messieurs. Jazz. Avec un quartet montréalais, Solarium, c'est le nom du quartet, qui a sorti un deuxième album cet été, intitulé Aube Nocturne. Alors, on écoute la pièce Big City Blues et on se dit bonne soirée et à dans deux semaines.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Solarium.